Bon réveil si vous nous rejoignez, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il faudra bien plus qu'une prime de 300 euros pour apaiser la colère des policiers. Les trois syndicats majoritaires l'ont dit hier au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'une réunion place Beauvau, compte rendu signé David Ravier dans un instant.
Et pendant ce temps, l'exécutif multiplie les annonces et tente de retranscrire dans la loi les mesures ordonnées par Emmanuel Macron il y a 10 jours.
Sauf que les couacs s'enchaînent avec hier soir un rétropédalage en accéléré du Premier ministre sur les mesures qu'il avait lui-même annoncées le mois dernier. Comment expliquer le retour des couacs, ce sera l'objet du billet politique de Frédéric Seyss juste après ce journal.
Et puis rien ne va plus en Belgique, qui se retrouve techniquement sans gouvernement ce matin après la démission hier du Premier ministre Charles Michel.
Retour sur les raisons de la crise alors que le roi Philippe tente de suspendre la situation. Explication avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazé.
Et puis beaucoup de questions ce matin après la mort d'une patiente après 12 heures d'attente aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris.
Oui, et dans ce journal nous irons aussi à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où 10 millions d'électeurs doivent élire aujourd'hui leur président de la République. Nous ferons leur portrait sur place avec notre correspondante. Pour désamorcer la colère des policiers, la prime exceptionnelle annoncée hier de 300 euros par Christophe Castaner ne suffira pas, ça ne fait pas le poids selon les syndicats reçus hier place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur tente d'endiguer tant bien que mal un mouvement qui a commencé hier avec un service minimum des forces de l'ordre à l'appel de l'UNSA et qui se poursuit aujourd'hui avec une journée noire dans les commissariats lancée par les syndicats SGP Police et Alliance. Hier, les trois organisations majoritaires n'ont pas été convaincues par Christophe Castaner, David Ravier.
Christophe Castaner avait été prudent avec les syndicats. Quelques heures avant la rencontre, il annonçait une prime de 300 euros pour les policiers qui étaient mobilisés lors des manifestations des Gilets jaunes. Une attitude qui ne passe pas pour Philippe Capon, le secrétaire général d'UNSA Police.
Les primes au ministère de l'Intérieur sont toujours clivantes. Preuve en est, c'est que la prime sera réservée à un certain nombre de collègues que le ministère de l'Intérieur a considéré comme étant présents sur les mouvements de Gilets jaunes. Comment expliquer à des collègues qui sont sur des missions de sécurité seront écartés de la prime parce qu'on a décidé de la donner aux Gilets jaunes. Déjà, on démarre et on appréhende cette réunion.
Si l'intersyndicale n'était pas sereine avant cette rencontre, la réunion a duré plus de 2 heures pendant lesquelles ils ont pu exposer leurs problèmes au ministre qu'ils ont trouvé à l'écoute de leurs revendications. Pour autant, à la sortie, il y avait encore du travail avant de crier victoire pour Yves Lefebvre, le délégué général du syndicat SGP Police.
Des propositions de mise sur la table, à l'arbitrage. On ne rentrera pas dans les détails des propositions ce soir. Elles sont sur la table. C'est un modus operandi qu'on a pris avec le ministre. Aujourd'hui, il y a les arbitrages en cours. On pleure pas ce soir. On a un peu le sourire. Donc voilà, on est dans la négociation. On continuera la négociation demain. Il n'y a rien de concret pour l'instant. Il y a un ministre qui a été à l'écoute ce soir et qui s'est engagé à obtenir les arbitrages dans la nuit. Voilà.
Syndicats et ministres se retrouvent cet après-midi place Beauvau pour prolonger la discussion.
Et le mouvement se poursuit aujourd'hui dans les commissariats avant une nouvelle réunion avec le ministre de l'Intérieur. Alors que ce matin, le ministre de l'Intérieur annonce un nombre d'agressions déclarées par les sapeurs-pompiers en forte hausse, plus de 23% sur l'année 2017 selon ces chiffres parus ce matin. Empêtré dans la crise des gilets jaunes hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'est livré à un rétropédalage en accéléré en annonçant l'annulation de mesures qu'il avait lui-même portées le mois dernier pour tenter de répondre à la colère des gilets jaunes. L'annonce n'a duré que 3 heures avant d'être annulée par Matignon vers 16h30. Le chef du gouvernement avait pourtant déclaré supprimer l'élargissement du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires pour 2019, supprimer également le relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs qui font plus de 60 km par jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Les députés, jusque dans la majorité, avaient dénoncé une erreur politique et un renoncement à une partie des mesures écologiques pour économiser entre 130 et 500 millions d'euros. À 19h20, Édouard Philippe annule donc l'annulation. Une sage décision, selon le député LaREM, Mathieu Orphelin.
Je pense qu'on a été un certain nombre de parlementaires de la majorité à réagir auprès de Matignon, chacun dans son style. Ça a permis d'entamer un dialogue fructueux et rapide avec le gouvernement et les services du Premier ministre. Je crois qu'on est dans une période compliquée, beaucoup de tensions, beaucoup de décisions qui s'enchaînent. Et donc, voilà, dans ces moments-là, il peut y avoir quelques erreurs d'appréciation. Mais quand elles sont corrigées rapidement, comme là, c'est très bien. Je dis, on est là aussi pour ça, nous les parlementaires, aux côtés du gouvernement, pour alerter quand il y a des décisions qui semblent pas aller dans la bonne direction, et notamment sur ce sujet si important de la transition écologique et énergétique, un sujet qu'on a sans doute trop peu abordé collectivement ces derniers jours. On était focalisé sur les très bonnes mesures qu'on a annoncées pour le pouvoir d'achat et c'était très bien. Maintenant, il faut que nous fassions très attention à ce que les arbitrages budgétaires ne soient pas faits aux dépens de la transition écologique.
Mathieu Orphelin, au micro de Laurent Kramer. À l'Élysée, hier, Emmanuel Macron a réuni 12 de ses ministres pour élaborer la stratégie du grand débat de consultation qui doit canaliser la colère et permettre la sortie de la crise politique selon les espoirs de l'exécutif. À la sortie de cette réunion, c'est un calendrier légèrement décalé. Jusqu'à la mi-janvier, l'exécutif continuera à encourager les maires ruraux à faire remonter les doléances des citoyens. Et puis, du 15 janvier jusqu'à la mi-mars, 2 mois pleins donc, la phase de consultation devrait s'ouvrir. Parmi les thèmes sur la table, il y aura démocratie et citoyenneté, alors que l'une des revendications phares des Gilets jaunes est d'organiser un référendum d'initiative citoyenne. Le Parti Socialiste a lui proposé hier d'utiliser un outil déjà existant, mais jamais mis en application pour un référendum d'initiative partagée, Anne Fauquemberg.
Le débat organisé par Chantal Joanneau, le RIC, et maintenant le RIP pour référendum d'initiative partagée. Introduit dans la Constitution en 2008 par l'ancien président Sarkozy, il n'a jamais été utilisé. Les parlementaires socialistes s'en saisissent donc pour demander le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Un outil qui a le mérite d'exister, estime le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Mais parce que le référendum d'initiative citoyenne, c'est un débat qui va être posé par le gouvernement, je comprends. On ne sait pas s'il sera finalement accepté ou pas. Et donc, nous avons un outil qui existe déjà. Il n'est pas parfait, loin s'en faut. Mais avec les outils qui existent, nous pouvons exiger des choses. Et puis, travaillons parallèlement au fait qu'on puisse avoir des outils plus performant, plus participatif. Ça, c'est l'objet du débat sur le référendum d'initiative citoyenne.
Un outil qui existe, c'est vrai, mais qui a aussi ses règles. Il faut réunir 185 parlementaires pour déposer une proposition de loi. Les élus PS de l'Assemblée et du Sénat ne sont qu'une centaine. Et pas question de faire alliance trop large, explique le sénateur Patrick Kanner, qui refuse de s'associer à l'extrême droite.
Le Front National, ce n'est pas nos valeurs. Nous le combattons. Ce n'est pas un adversaire, c'est plus qu'un adversaire politique. Nous ne partageons pas la même vision de la société, donc nous ne souhaitons pas mélanger nos signatures avec celles du Front National, du Rassemblement National pour être plus précis.
Si le PS arrive à réunir ses signatures, le Conseil constitutionnel aura un mois pour vérifier la validité de la proposition de loi, puis le ministre de l'Intérieur serait en charge de recueillir l'approbation d'un dixième des électeurs, 4 600 000 personnes environ. Il y en a pour au moins un an de procédure, pas sûr que les Gilets jaunes soient aussi patients.
Anne Fauquemberg, l'ex-ministre de la Culture, Fleur Pellerin, reconvertie dans le privé, est soupçonnée de prise illégale d'intérêt pour avoir noué des contrats avec un géant du web sud-coréen qui était à l'époque l'un de ses interlocuteurs au gouvernement, selon un rapport administratif publié ce matin au journal officiel. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a transmis un signalement au parquet. Alors qu'un ancien député, Les Républicains, a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris pour l'emploi fictif de sa fille, comme collaboratrice parlementaire. L'ancien député et ancien magistrat antiterroriste Alain Marceau avait reconnu les faits. Il écope de 12 mois de prison avec sursis, 300 000 euros d'amende, la confiscation du produit du délit, évaluée à près de 205 000 euros, et une peine d'inéligibilité de 5 ans.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont et des matins de France Culture. Une femme retrouvée morte aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, 12 heures après son arrivée sur place.
Oui, 12 heures d'attente pendant lesquelles on ne sait pas encore si elle a pu voir un médecin. Emmenée par les pompiers, elle a été retrouvée morte dans la salle d'attente hier matin à 6h20. Après être arrivée lundi soir vers 19h au centre hospitalier du 10e arrondissement, la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, a signalé l'affaire au procureur de la République hier matin. Une enquête interne a été ouverte en parallèle, mais déjà des voix s'élèvent pour dire que ce drame était prévisible, tant les urgences sont à bout de souffle, Véronique Julia.
La patiente chargée de sécurité à la mairie de Paris avait, semble-t-il, de la fièvre. Elle aurait d'abord voulu consulter un médecin de ville dans un centre de santé. Celui-ci n'étant pas disponible, le centre aurait appelé les pompiers pour la conduire à l'hôpital. À son arrivée à 18h45, lundi soir, une infirmière d'accueil et d'orientation l'aurait enregistrée dans le circuit de prise en charge. Mais son état n'ayant pas été considéré comme urgent, la patiente aurait été invitée à s'installer en salle d'attente. C'est là qu'elle serait morte au bout de 5 heures. Son décès a été constaté le lendemain. à 6h20. Évidemment, le scénario précis des circonstances demande à être éclairci, mais l'événement n'étonne pas l'urgentiste parisien Jonathan Freund. Le lundi soir est en général le plus chargé de la semaine.
Ça me surprend parce que c'est terrifiant, mais malheureusement, ça ne m'étonne pas plus que ça, non ? On n'a pas les moyens de prendre en charge correctement les malades. C'est pas très étonnant si un lundi soir, des patients attendent beaucoup plus longtemps que prévu et que forcément, malheureusement, il y a des événements dramatiques comme celui-là. Ça, on le sait, le nombre de patients qui consultent et leur gravité s'accroît d'année en année. La dotation supplémentaire en moyens, en médecins et en infirmiers ne suit pas.
Et encore, pas d'épidémie de grippe pour l'instant dans Paris qui surchargerait les hôpitaux. Ce manque d'effectifs, les soignants de l'hôpital Lariboisière l'avaient dénoncé cet été en manifestant. Ils avaient évoqué à l'époque une situation insoutenable, mettant, je cite, la population en danger.
Une bonne nouvelle ce matin, un épilogue aussi heureux qu'inespéré est en vue aujourd'hui pour les ouvriers de l'aciérie d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. Le tribunal doit donner son avis définitif aujourd'hui sur le projet de reprise du site longtemps promis à la fermeture et qui emploie plus de 280 personnes. En 2015, c'était Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, qui avait promis que l'usine ne fermerait pas. À quelques heures de la décision, le PDG se dit serein.
8h10, nous partons maintenant en Belgique où le Premier ministre Charles Michel a présenté hier sa démission.
Oui, le pays n'a plus de gouvernement fédéral ce matin. Le Premier ministre libéral, en poste depuis 4 ans et demi, a annoncé sa décision hier soir devant la Chambre des représentants avant d'aller la présenter formellement au roi Philippe. Le roi des Belges a décidé, je cite, de suspendre sa décision. Alors comment en est-on arrivé là? Que peut-il se passer maintenant? Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
Le Premier ministre Charles Michel avait demandé aux députés de l'opposition leur soutien pour maintenir à flot son gouvernement, car la coalition est minoritaire depuis le départ il y a 10 jours de la NVA, parti régionaliste flamand. Les députés écologistes et socialistes ne l'ont pas suivi. Ils ont décidé de déposer une motion de défiance à l'encontre de Charles Michel, qui s'est retrouvé acculé à la démission.
J'ai compris que cet appel n'a pas été entendu, à ce stade en tout cas. Je dois donc respecter et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement.
Le roi des Belges a décidé, je cite, de suspendre sa décision, ce qui ouvre la porte à un maintien de Charles Michel à la tête d'un gouvernement aux affaires courantes jusqu'aux prochaines législatives. Pour le président du Parti écologiste francophone, Jean-Marc Nollet, cette crise était prévisible dès le départ du simple fait de la présence dans le gouvernement de la NVA, l'alliance néo-flamande.
L'erreur est au point de départ. Avoir fait le choix de la NVA, nous lui avons dit immédiatement que c'était un choix terrible qui, un jour ou l'autre, allait nous mener au chaos dans lequel on se situe aujourd'hui.
La NVA s'est déjà positionnée pour les prochaines législatives en dénonçant violemment le pacte de Marrakech sur l'immigration et c'est cette stratégie destinée à aller repêcher les électeurs de droite qui a fini par entraîner la chute du gouvernement fédéral belge.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Culture. Direction maintenant l'un des pays les plus pauvres de la planète, Madagascar, vote aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle. Près de 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir entre deux anciens présidents. Ces deux anciens présidents considérés comme principaux responsables de la crise politique de 2009. Cette année-là, à l'issue de manifestations sanglantes, le jeune maire de la capitale avait ravi le pouvoir au président en exercice. Une accession à la tête du pays qualifiée de coup d'État par la communauté internationale. Interdit de candidature en 2013, les deux rivaux s'affrontent donc pour la première fois par les urnes. Un second tour aux allures de revanche personnelle à Madagascar, notre correspondante Sarah Teto.
À 69 ans, Marc Ravalmanan, le self-made man qui s'est construit un empire dans l'agroalimentaire, signe son grand retour en politique. 10 ans après avoir été chassé du pays, l'autoritaire ex-chef d'État qui se fait appeler Dada, papa en malgache, reste adulé dans la capitale et sur les hauts plateaux, la zone la plus peuplée de l'île.
J'ai promis à la population malgache que je reviendrai un jour pour aider la population malgache parce qu'ils souffrent beaucoup ici et surtout pour rebâtir ce qu'ils ont détruit. Avant, il n'y a plus jamais d'insécurité, bien de mauvaises routes. Actuellement, c'est terrible. 9 ans après, the time is now.
Andjrad Zoëln, lui, est venu chercher sa légitimité par les urnes. Le président de la transition de 2009 à 2013, roi de la communication, a ébloui le pays par ses meetings fastueux avec arrivée en hélicoptère, feux d'artifice, distribution de cadeaux et promesses d'un futur extraordinaire. Critiqué pour son inconstance et son caractère manipulable, le quadragénaire promet qu'il a mûri.
Concernant mes fréquentations, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la vie m'a beaucoup appris. Je me suis bien entouré, j'ai changé. et je vais tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption.
Insultes, dénigrements, propagation de rumeurs, l'hostilité personnelle des deux hommes a éclaté durant la campagne. Une ambiance délétère faisant craindre le pire. En cas de résultats serrés, notent les analystes, le perdant pourrait bien contester les résultats et faire replonger le pays dans la crise.
Sarah Tetto à Madagascar pour France Culture. Déjà plus de 300 morts et les inquiétudes qui augmentent dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, à mesure que progresse l'épidémie d'Ebola. 4 ans après le début de la plus grosse épidémie jamais connue dans l'ouest de l'Afrique, l'OMS et les services de santé régionaux tentent de tirer les leçons du passé et de profiter de la découverte d'un vaccin. Depuis l'annonce des premiers cas, au mois d'août, l'OMS a mis en place une campagne de vaccination. Presque 50 000 personnes ont déjà été vaccinées à ce jour. Des orages sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine, des perturbations aussi dans le Var, la Côte d'Azur, de la grêle aussi signalée sur le Massif central. Partout ailleurs, les averses dominent, les températures sont douces, comprises entre 2 et 13 degrés aujourd'hui.